France Culture.
Histoire. Xavier Mauduit.
Remembrement, mais où se trouve aujourd'hui le petit chemin qui sent la noisette? Vous savez, ce petit chemin qui n'a ni queue ni tête. Parmi les grands plaisirs de l'existence, il y a la balade dans un chemin creux, vous savez, entre deux talus surmontés de haies aux essences diverses et dont les branches se rejoignent, une sorte de tunnel. C'est magique, oui, mais à côté de l'amour des haies, il y a la haine des haies. Remembrement, une histoire politique aux tailles haies et aux bulldozers.
Amis paysans, bonjour.
Les paysans. Doit-on dire paysans ou agriculteurs? Et puis qu'est-ce que ça veut dire paysans?
Les agriculteurs ont été consultés aussi et il y a eu beaucoup d'arrangements à l'amiable.
Tout le monde connaît la haie et le bocage de nos régions.
On a tendance à faire des parcelles trop grandes, cela tout le monde le sait. Mais on continue à le faire alors qu'il y a 10 ans qu'on le dit.
La responsabilité de l'homme dans la formation, le façonnage du microclimat dans lequel il vit est importante.
Une agriculture prospère aujourd'hui doit faire face à la concurrence?
Non.
Subir la concurrence?
Non.
Vouloir la concurrence?
Non. La politique des petits copains n'existe pas ici, du moins tant que je serai maire, elle n'existera pas.
C'est donc la fin des champs irréguliers et enchevêtrés.
Et ceux qui n'étaient pas contents avant, maintenant sont comme nous.
Oui, enfin, grande discussion à voir, ça vous fait rire, Inès Leroux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, productrice de documentaires radiophoniques sur France Culture notamment, et l'autrice de cette bande dessinée Champ de bataille, l'histoire enfouie du remembrement. C'est une histoire qui nous concerne tous, je disais. C'est un mot, remembrement, que pour les gens qui étaient présents vraiment à regarder l'actualité dans les années 1950, 1960, 1970, c'était un mot de l'actualité. On parlait beaucoup de remembrement.
Ça, j'ai pas mesuré à quel point en fait c'était présent à l'ORTF, dans les médias à l'époque. Mais c'est vrai qu'il y a eu une grande campagne de promotion, voire de propagande du remembrement, qui est ce grand aménagement foncier, réaménagement foncier des campagnes agricoles françaises.
Avec la précision qu'on doit apporter tout de suite sur ce qu'est le remembrement, Léandre Mandard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorant au Centre d'Histoire de Sciences Po. Votre thèse, sous la direction de...
Alain Chatriot.
Voilà, que vous retrouvez dans un épisode du cours de l'histoire consacré aux origines de la politique agricole commune. Votre thèse s'intitule « Révolution dans le bocage, genèse, exécution et contestation du remembrement rural en Bretagne ». Je disais l'importance de préciser le vocabulaire. Souvent, quand nous parlons de remembrement, nous imaginons la haie arrachée. En fait, c'est pas ça le remembrement. C'est quoi l'origine même du remembrement?
Déjà, le remembrement... c'est d'abord un échange de parcelles. Donc on organise à l'échelle d'une commune un échange généralisé et obligatoire des parcelles de façon à les agrandir pour les adapter à l'usage des tracteurs en fait. Et du coup en même temps on regroupe ces parcelles autour des exploitations. Et sauf que dans les régions de bocage, effectivement, comme la Bretagne, la Normandie, le remembrement a aussi consisté à détruire ce que les ingénieurs considéraient comme des obstacles à l'utilisation rationnelle du sol, donc les haies, les talus, les chemins creux dont vous avez parlé.
On peut dire que le remembrement, c'est pas la destruction des haies, ou plutôt que la destruction des haies, c'est une conséquence d'une politique foncière qui est le remembrement. C'est un peu ça qu'on doit mettre en avant.
En quelque sorte, même si en fait ces travaux connexes là que sont la destruction des haies et des talus, et il y avait des travaux de drainage aussi et de rectification des cours d'eau, de déméandrisation des cours d'eau pour les rendre droits, pour avoir des parcelles orthogonales, bien carrées et tout ça. En fait, c'est ce qui est aujourd'hui peut-être le plus visible, et c'est une part finalement importante aussi du remembrement que de créer un paysage complètement adapté à l'agriculture moderne, plus industrielle, plus motorisée.
C'est quoi le bocage? Comment on pourrait le définir, Inès Leroux?
Le bocage, ce serait long à décrire, à définir, mais ce qu'on peut dire de plus immédiatement, c'est que c'est une forêt linéaire, en fait. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que la forêt, c'est pas l'endroit le plus riche en biodiversité, une forêt en masse. Les endroits les plus riches en biodiversité, c'est les interfaces. Donc c'est la lisière de la forêt. Et quand on a une forêt linéaire, c'est comme si on avait une lisière sur des milliers et des milliers de kilomètres. Et donc c'est un endroit extrêmement riche en biodiversité qui abrite de nombreuses espèces, des espèces qui pollinisent les cultures, des prédateurs qui chassent en fait les ravageurs des cultures. Donc c'était vraiment très connecté à l'agriculture en fait. Et ce bocage, c'est donc tout un maillage, un tissu d'arbres plantés généralement sur des talus, ce sont des monticules de pierre, de terre qui peuvent ou de pierre en fait, c'est comme des murets de terre ou de pierre qui empêchent l'érosion des sols, retiennent la terre quand il pleut. Enfin voilà, il y a beaucoup de fonctions au bocage.
C'est vrai qu'il y a des haies sèches aussi, des bocages avec des haies sèches. Dans cette histoire-là, nous avons avec le bocage le reflet d'une longue histoire foncière, parce que ces haies, il faut bien le dire, elles ne sont pas naturelles, ce sont des constructions humaines le plus souvent, ces haies. Enfin, toujours même, ce sont des constructions, avec un talus et puis des arbres plantés dessus, pas n'importe lesquels.
Alors, c'est un paysage effectivement construit et historique qui est apparu en fait surtout à la fin du Moyen-Âge. En fait, à l'origine, c'était des grands domaines seigneuriaux, des communautés religieuses qui ont entouré leur domaine de grandes haies de façon à soustraire leur parcelle privative à la pratique de la veine pâture en fait, parce qu'au Moyen-Âge, pendant une grande partie de l'époque moderne aussi, les communautés paysannes faisaient paître leurs troupeaux en commun sur les terres de tout le monde, et le fait d'enclore par des haies et d'étaler ces parcelles, c'est une façon du coup de se soustraire à cette pratique collective, et ça accompagne ce que Marc Bloch a appelé la montée de l'individualisme agraire. Hein, donc des communautés seigneuriales ont commencé voilà à entourer leur domaine de haies, ils ont été ensuite imités par les paysans, et on se retrouve ensuite avec un bocage très 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 dense, et sachant que du coup il y avait cette fonction première alors de marquage juridique de la propriété et de protection des parcelles du bétail des autres, mais ensuite il y a d'autres fonctions qui sont apparues effectivement très nombreuses quand on pense à tout le bois de chauffage, bien sûr à tout le bois d'œuvre qu'on peut trouver dans les haies où on fabrique des meubles, des outils, le bois est extrêmement présent dans la civilisation technique de l'époque moderne. On faisait aussi des charpentes. On voit en Bretagne, par exemple, des charpentes traditionnelles qui s'adaptent à la forme des arbres du bocage, qui peuvent parfois être tortueux. Et il y a une fonction aussi nourricière de ce bocage, avec beaucoup de fruits, des châtaignes, des mûres qu'on peut y trouver.
Les noisettes. Ah non, mais c'est vrai, hein, le bocage, on est dans les chemins creux, on s'arrête, il y a le noisettier qui est là, et on le sait parce qu'on y revient l'année d'après, parce que celui-là, il donne des bonnes noisettes. Dans ce que vous nous dites là, il y a malgré tout, on le sent, l'histoire qui fait que de plus en plus, les parcelles deviennent petites, parce que succession après succession, on partage le champ, donc on construit une nouvelle haie, il y a une évolution. C'est vraiment intéressant ce que vous nous dites là sur ces origines de la construction des haies, mais on voit qu'à travers le temps, il y a une évolution. Pour saisir ce qui va se passer au XXe siècle, on doit comprendre cette évolution-là, pour se dire qu'il y a de plus en plus de haies. On peut le voir un peu comme ça ?
Oui, 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 en effet, fin 19e, début 20e, le morcellement du paysage agricole devient très important, notamment lors des successions, pour marquer les limites de propriété. On reconstruit des haies, donc du bocage, et on aboutit à une situation au début du 20e siècle qui complique vraiment l'activité agricole, puisque parfois il y a des parcelles qui sont contenues dans d'autres parcelles, donc il va falloir passer par la parcelle du voisin pour accéder à la sienne, et puis surtout la propriété est complètement éclatée, émiettée. Une ferme se constitue de multiples parcelles qui sont parfois à des kilomètres les unes des autres.
Et c'est pas facile, hein, dès lors, pour cultiver. Ici, ce qui nous intéresse, c'est de voir cette réflexion sur l'idée de réunir les parcelles. Et là, vraiment, je reste sur ce vocabulaire foncier. Hein. On est chez monsieur le notaire, là, en l'occurrence. Et on regarde, ou alors, on regarde le cadastre et on se dit, bah, voilà, j'ai deux parcelles qui sont distantes de 5, peut-être 10 kilomètres. bon, les mettre côte à côte, et on va échanger avec le voisin. L'idée, en fait, elle est ancienne, déjà.
Oui, elle est assez ancienne, effectivement. Dès le XVIIIe siècle, il y a des agronomes qui écrivent sur l'intérêt qu'il y aurait à regrouper des parcelles, à avoir des propriétés plus rationnelles. Mais il y a aussi des échanges amiables aussi qui existent, hein, et qui, en fait, les contestataires du remembrement, plus tard, ceux qui ne seront pas d'accord avec cet aménagement, diront souvent qu'ils ne sont pas contre le principe d'un changement du parcellaire, mais ils défendaient plutôt des échanges amiables, considérés comme plus démocratiques que la procédure du remembrement.
Inès Leroux, dans Champ de bataille, l'histoire enfouie du remembrement, on le sent bien, ce monde paysan, ce n'est pas un monde figé. Et là aussi, faut le souligner pour bien saisir ce qui se passe au XXe siècle avec cette politique de remembrement. Nous ne sommes pas avec des gens obtus qui ne veulent absolument pas que leur parcelle bouge. Après, c'est la manière de faire qui va poser problème. Mais voilà, on est chez des gens qui savent très bien comment ça fonctionne et depuis très longtemps. Et d'ailleurs, ils savent très bien quelle parcelle il est acquis.
Tout à fait. En fait, dans la plupart des campagnes, les gens sont complètement ouverts à la question du remembrement. Et même certains veulent ce remembrement. Ils le voient comme... Ils sentent bien que ça va faciliter leur travail quotidien.
Et c'est ça, hein, vraiment. Il y a l'idée que, faut produire, faut nourrir la famille, souvent des familles élargies. Donc, c'est très bien. Bon, dans cette histoire-là, il y a quand même le regard du pouvoir. Et un moment est très particulier, c'est... sous la Seconde Guerre mondiale, le régime du maréchal Pétain, avec ici une vraie politique en faveur du remembrement, le maréchal Pétain.
Paysans français, l'immense désastre matériel et moral qui a bouleversé notre malheureux pays et dont il souffre encore, a atteint profondément la paysannerie. Des travaux importants sont à réaliser en ce qui concerne l'équipement rural. Électrification des campagnes, adduction d'eau, entretien des chemins ruraux. L'extrême morcellement du sol dans certaines régions stérilise l'effort des hommes et provoque l'accroissement des friches. Par l'application d'une loi sur la reconstitution foncière promulguée récemment, les régions morcelées seront remembrées et leur production sensiblement accrue.
Le maréchal Pétain, en avril 1941, Léandre Mandard, votre thèse débute en 1941. Je pense qu'il y a un lien avec ce que l'on vient d'entendre.
Effectivement, parce que la loi qui pose le cadre législatif du remembrement dans toute la seconde partie du XXe siècle, c'est la loi du 9 mars 1941, qui est élaboré dans ce contexte très trouble de l'occupation, effectivement. Et c'est là qu'on peut voir les différents types d'influences qui ont pesé sur la genèse de cette procédure de remembrement, puisqu'il y a d'abord une influence allemande. Alors la science agronomique allemande était même avant, bien avant la Seconde Guerre mondiale, le modèle à suivre en Europe. On envoyait les diplômés de l'agro, les diplômés ingénieurs français en Allemagne en stage. Et du coup, l'Allemagne avait été largement remembrée déjà dès le 19e siècle et ensuite même aussi sous le Troisième Reich. Et par ailleurs, il y a une injonction à produire de l'occupant allemand, puisqu'on est dans une économie de guerre avec beaucoup de prélèvements sur l'agriculture française. Et du coup, l'occupant nazi considère l'agriculture française comme absolument archaïque et pousse à ce remembrement. Et enfin, il y a des technocrates français aussi qui voient dans le régime de Vichy une opportunité pour faire avancer cette question de remembrement qu'ils défendent beaucoup dans l'entre-deux-guerres, hein, parce que le régime de Vichy, contrairement à l'image de la propagande du retour à la terre, de la terre qui ne ment pas, etc., il y a derrière cette image-là, il y a quand même un régime qui est très technocratique, comme l'a montré déjà Robert Paxton déjà en 73. Et du coup, voilà, ce contexte de la guerre a vraiment participé à forger la procédure de remembrement et le moment Vichy a été un moment important dans le déploiement de la modernisation agricole, une politique agricole productiviste, comme bien l'ont bien montré notamment Christophe Bonneuil et Margot Lyautey dans un article récent.
Oui, on voit que ce qui se passe pendant le régime du maréchal Pétain, c'est en écho à ce que vous nous avez dit, hein, les années auparavant, la réflexion des agronomes, etc. On va réunir les parcelles, c'est formidable. Et d'ailleurs, Inès Leroux, dans Champ de bataille, je vais dire, c'est pas par hasard. Bon, enfin, non, après, c'est le travail, c'est comme ça, c'est la vie. Ben, enfin, un des premiers personnages que l'on rencontre dans cette bande dessinée est pétainiste. Enfin, il s'inscrit aussi dans une histoire très particulière et il est en faveur du remembrement.
Alors, il y en a plusieurs des personnages. Vous parlez de Maurice Poiret.
Alors, non, attendez, je reprends, c'est le vicomte.
Jean Dudrenet, le vicomte.
Ouais, le vicomte.
Oui, bien sûr. Le maire de cette commune qu'on a étudiée, Fégréac, une commune de Loire-Atlantique, qui est une des premières communes de l'Ouest à avoir été remembrée en 1953. Et effectivement, le maire, le vicomte Dudresnay, est un fervent soutien du maréchal Pétain. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il va d'ailleurs s'inscrire dans le mouvement syndical de la FNSEA ensuite, après-guerre. Et lui, il a déjà été un des premiers à faire électrifier sa commune. Et donc, voilà, il y a cette corrélation entre le mouvement pétainiste et une forme de modernisme.
Ah oui, non,
très
mais
précoce.
Mais on le voit bien parce que ce maire-là dont on parle, c'est lui qui a fait venir l'eau courante, je crois, l'électricité. Oui, vous venez de le dire. C'est pour ça que, évidemment, et on le sait, c'est jamais bien ou mauvais. C'est toujours très compliqué, ces phénomènes-là. Mmh. Et ce maire-là, quand il décide de mettre en place le remembrement, on est en 1953 dans sa petite commune du Morbihan, il veut vraiment l'amélioration des conditions de vie des gens. Lui, il est vraiment dans cette optique-là. C'est pas quelque chose pour son profit personnel. C'est pas comme ça qu'on doit le concevoir.
En effet, et en même temps, il a une vision du pouvoir qui est très autoritaire. C'est-à-dire que lui, enfin, il faut voir que cette loi de Vichy du 9 mars 41, c'est une loi qui permet de faire, comme le disait Léandre, de faire avancer ce projet de remembrement dans les campagnes à marche forcée. L'idée, c'est vraiment de faire une loi très autoritaire, parce qu'avant, les lois sur le remembrement de 18 et 19 étaient soumises à l'avis de la majorité des propriétaires d'une commune. Et avec cette loi, même avec une poignée de propriétaires, on peut imposer le remembrement à tout le monde dans une commune. Et donc, Le vicomte Dudresnay s'inscrit vraiment dans cette volonté de faire le remembrement dans sa commune coûte que coûte et que ça devienne une vitrine pour tout l'ouest de la France, pour inciter le reste de la région à entrer aussi dans cette politique.
C'est pas facile, hein. On l'a dit, la discussion entre voisins, ça peut aider pour échanger des parcelles. Enfin bon, c'est long, c'est compliqué. Là, la loi donne un autre cadre à ces discussions. En fait, elle impose des choses.
Effectivement, parce qu'il y a, l'administration qui a un rôle prépondérant dans l'encadrement de la procédure à toutes les étapes. Et c'est important de souligner, oui, le rôle aussi du syndicat. Alors, du syndicat unique sous le régime de Vichy, qui était la Corporation Paysanne, voilà, qui a vraiment un rôle aussi dans la procédure, dans les commissions communales de remembrement. Et ensuite, après la libération, ce sera donc peu à peu la FNSEA. Qui proposera, qui nommera en fait, proposera au préfet exactement les noms des propriétaires exploitants qui siégeront dans ces commissions. Et donc, ça induit évidemment un biais considérable dans les décisions qui sont prises par ces commissions, parce qu'on a un type de profil d'agriculteur qui tend à être privilégié. Donc des jeunes agriculteurs modernistes, bien vus du syndicat majoritaire. Et du coup, ce profil d'agriculteur-là s'impose au détriment de tous les autres profils qui tendent à être lésés, du coup.
Avec aussi, derrière tout cela, j'allais dire une propagande, mais dans un sens très général, en tout cas une incitation très forte aux populations pour agir en faveur du remembrement.
Une mosaïque de champs. Voilà un aspect de la campagne française avant la dernière guerre. parcelles petites, exiguës, d'où perte de surface cultivable. Parcelles dispersées, souvent incommodes d'accès, d'où perte de temps. Après la guerre s'amorce le remembrement, véritable révolution pacifique et discrète qui touche à la propriété, à la terre ancestrale du paysan. Le cadastre est refondu, les parcelles groupées et redistribuées. Champs plus vastes, mieux dessinés, plus accessibles. Gains de temps, de qualité, de surface. À tout point de vue, meilleure utilisation du capital terre. Le remembrement a ouvert la voie à la mécanisation de l'agriculture française en plein essor. Les machines agricoles augmentent le rendement des terres et réduisent les efforts de l'agriculteur qui connaît une vie plus facile. Les récoltes accrues s'emmagasinent dans ces silos, magnifique réalisation qui illustre la vitalité de notre agriculture sur la voie de l'industrialisation. Des villages modernes, propres, clairs, composés de maisons confortables, de bâtiments de fermes bien équipés, entourés de champs remembrés, disent l'avenir prometteur de notre agriculture. Il suffit de vouloir, il suffit de choisir.
Eh bien, ah, ça c'est, oui, je vous dis, c'est grandiloquent. C'est la page 62, Inès Hérault, de votre bande dessinée, hein, Champ de bataille, avec Pierre Van Hove, hein, pour les dessins. Et voilà, il y a énormément d'archives, parce qu'on voit dans votre démarche, il y a cette démarche d'historienne, c'est-à-dire on va aux sources et on réfléchit. Là, quand on entend ça, c'est sûr que c'est un avenir radieux qui nous est proposé avec le remembrement.
Il faut voir les images de cette archive. C'est parce que on entendait des bruits de moteurs. En fait, il s'agit d'hélicoptères qui sont en train de pulvériser des parcelles avec des pesticides. Quand il parle de ces silos, ces magnifiques réalisations, c'est des silos immenses qui font plusieurs centaines de mètres de hauteur. C'est vraiment des usines qui sont en train de pousser sur le territoire. Et donc, oui, c'est assez fou de, quand on regarde cette archive, de voir la fascination pour tout ce matériel. Et cette industrialisation des campagnes.
Oui, puis il faut contextualiser. Hein, nous sommes, alors pour le remembrement, on l'a dit, 1941, il y a cette loi. Mais on connaît bien ce contexte très difficile et c'est normal. Hein, c'est la guerre et puis il y a l'après-guerre. C'est encore très difficile. Donc dans les années 1950, on est dans un autre univers. Il y a eu le plan Marshall. Enfin, ce remembrement s'inscrit dans une politique agricole beaucoup plus large.
Certes, c'est en fait un pilier de la modernisation agricole française. Hein, puisque en fait, pour le cas de la Bretagne, par exemple, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on est quand même dans une agriculture, alors qui est vue, en tout cas par le pouvoir, comme très très arriérée, très en retard. Oui, la Bretagne, voilà, c'est un conservatoire des traditions où les paysans vivent comme au 19e siècle. C'est ça l'imaginaire, en tout cas, et on passe de ça à la première région d'élevage en France. Il y a un modèle d'agriculture industrielle à l'échelle de l'Europe, voire au-delà. Et donc, c'est une transition très rapide. Et on imagine mal comment elle aurait pu se faire sans une certaine dose de violence, finalement. Et c'est ce qui illustre ce continent des contestations du remembrement.
Parce que les violences, elles sont multiples. Hein. La violence, ce n'est pas simplement envoyer des CRS, même si c'est de la violence. Les violences, elles sont incroyables. Et Inès Hérault, en allant au plus près des gens, de comment ça s'est passé concrètement, on saisit hein, comment ça s'est déroulé. C'est-à-dire que dans un premier temps, on sent que les populations sont plus ou moins concernées par le remembrement. On leur annonce qu'il va y avoir un remembrement, mais bon, on en cause, quoi. Mais bon, tout le monde n'est pas autant concerné, quoi.
Puis le remembrement, il est subventionné, donc il va pas coûter, a priori, trop aux communes, aux populations. Enfin, il est subventionné à 80%. Et effectivement, il y a un moment de basculement. C'est quand, déjà, les populations découvrent les plans de remembrement. Et là, vont se former des camps. Le camp, généralement, les villages vont être clivés, divisés très brutalement. Il y a un camp qui va s'appeler le camp des lésés. Et qui va nommer l'autre le camp des profiteurs. Donc voilà, à partir des plans de remembrement, il y a énormément de colère qui se constitue parce qu'on a l'impression que certains, notamment les agriculteurs qui ont été choisis par la FNSEA et par l'administration au sein des commissions de remembrement, se sont avantagés au détriment des autres.
avec la possibilité de contester. Parce que c'est vraiment ça, hein. On l'a bien dit, donc remembrement qui est réalisé par qui d'ailleurs? Parce que c'est pas les agriculteurs, les paysans qui font le remembrement, ce
donc,
sont des gens
il est
beaucoup
mis
plus compétents.
Il est mis en œuvre par une commission de remembrement dans laquelle il y a le maire, il y a le génie rural et il y a les plus gros agriculteurs de la commune.
Voilà, donc les agriculteurs découvrent les plans de remembrement, ils découvrent que leur parcelle qu'ils ont héritée de la vieille tante ou qu'ils ont depuis leurs grands-parents passe à leurs voisins, mais eux, ils en récupèrent une autre. Ils peuvent contester. Et d'ailleurs, dans la bande dessinée, il y a des exemples, des documents de ces réclamations, de ces doléances.
Ouais, c'est vraiment, moi c'est ce qui m'a fascinée, parce que c'est grâce à Léandre, c'est en travaillant, il a collaboré sur cette bande dessinée, c'est en travaillant avec un historien que j'ai pensé à aller dans les archives départementales, et j'ai découvert tous ces cartons d'archives qui n'avaient pas toujours encore été ouverts, et qui contenaient des lettres de réclamation. C'est fascinant de découvrir en fait, à cette époque, donc la France rurale qui ne s'est pas complètement encore approprié la langue française, qui parle encore des langues locales, des patois, le breton, le normand, etc., qui maîtrise encore moins l'écrit et qui donc se retrouve à faire des réclamations malgré tout, des réclamations écrites, des recours en justice. Dans les communes, c'est environ 30% de réclamations. C'est important quand on sait que ces populations maîtrisent donc mal la langue de l'administration. Et c'est émouvant de les lire parce qu'on voit vraiment ce choc des cultures entre une culture paysanne et la culture de l'administration. Des gens qui avaient en plus l'habitude de qualifier leurs parcelles, les parcelles qu'ils avaient donc héritées, comme vous disiez, de leurs parents, grands-parents, etc., avec leur langue locale et qui ont du mal à transposer en fait ces qualifications dans la langue de l'administration. Et il y a des passages sidérants où on voit par exemple une dame qui écrit « Je garde tout mon terrain et surtout mon champ du noyer, je le veux, et le champ jardin à Marie Bocquel, elle réserve auprès de sa maison, et le pré de la fontaine à Ernestine, on réserve tous notre bien. » Et l'administration répond « Le champ du noyer qu'elle réclame est trop éloigné de ses bâtiments pour lui être conservé, de plus, n'avait pas à faire de réclamation pour ses voisins, rejeté. » Ou une autre dame qui dit « Je veux tout garder, pré, champ, pommier. La réclamation n'est ni précisée ni motivée. Ayant un caractère nettement marqué d'opposition systématique au remembrement, elle est rejetée. » Et enfin une autre « Je refuse le remembrement. J'ai 80 ans. Je tiens à garder mes parcelles pour m'aider à vivre. » Et là, on répond à cette vieille dame, voire décision prise au 53, c'est donc la réponse d'avant, qui, ayant un caractère nettement marqué d'opposition systématique, la demande est rejetée. Et on voit apparaître aussi l'utilisation des arbres dans ces réclamations, à quel point les arbres étaient intéressants, les noyers, les pommiers, les vergers, pour l'économie paysanne. Et en fait, ces arbres vont être considérés dans l'agriculture industrielle comme des obstacles à l'utilisation rationnelle des sols, et ils vont tous être arrachés.
Les pommiers notamment, et on voit bien, vous évoquez cette archive où on dit, bah oui, enfin, les pommes, elles sont pas bonnes, c'est bon pour faire le cidre, et le cidre, c'est l'alcoolisme. Donc autant arracher les pommiers. Léandre Mandard, quand on lit ces réclamations, on s'aperçoit également de la très grande connaissance qu'ont ces agriculteurs, ces agricultrices de leur terre. Et ça, les gens du génie qui réfléchissent à tout ça ne savent pas. Ils savent pas si la terre, elle est bonne pour faire pousser des carottes ou si elle est bonne pour y mettre une vache.
Tout à fait. Parce que le génie rural arrive avec ses catégories standards. Donc, on classe les terres avec de 1 à 7. Et en plus, ces ingénieurs et les géomètres aussi qui effectuent le remembrement ont été formés bien souvent dans le bassin parisien. Puisque c'est là-bas que le remembrement s'est appliqué d'abord dans les années 50, avant de toucher les régions de bocage. Et donc, dans le bassin parisien, les terres sont assez homogènes, globalement. Et ils arrivent, ensuite ils débarquent dans des régions de bocage ensuite, où on a des qualités de terres extrêmement diverses, avec du coup ce bocage aussi, en plus, qui complexifie les choses, et des usages très très diversifié des terres en fonction de la localité, des familles, parce qu'une terre, c'est pas le remembrement en gros voit la terre comme un pur support finalement de production qu'on peut échanger, mettre en commensurabilité avec toutes les autres terres, alors que les gens finalement pour eux, telle parcelle avec tels arbres dessus, c'est pas n'importe quelle parcelle, c'est celle du grand-père, ou c'est celle sur laquelle j'ai mis ce type d'amendement pendant des années qui l'a rendu très 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 productive pour ce que je veux en faire. Enfin, bref, il y a cette confrontation, ce choc des cultures entre les catégories standards de l'administration et tous ces usages, toutes ces catégories vernaculaires.
D'ailleurs, Juliette Rousseau, qui est une poète, écrivain, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Péquenaude récemment, elle dit le remembrement s'est passé d'une terre nommée, parce que les parcelles avaient des noms en fonction de leur qualité et justement à quoi elles étaient dédiées, à quel type d'agriculture, élevage, culture, etc. On passe d'une terre nommée à une terre quantifiée.
Oui, voilà. Et puis, sous le nom de pommier, on sait qu'il y a tant et tant de réalités. Quand on connaît son pommier, on sait que ces pommes-là, elles seront meilleures au couteau que celles-là. Avec, vous avez bien fait de le rappeler, hein, Léandre Mandard, ce remembrement commence dans le bassin parisien, c'est-à-dire des régions de champs ouverts, d'open field. Nous parlons aujourd'hui dans le cours de l'histoire particulièrement du bocage marqué par les haies qui séparent les parcelles. Mais le remembrement, cet échange foncier, ça a commencé dans des régions où il n'y avait pas de haies. Et ça posait moins de problème en soi.
Effectivement, il y avait moins de difficultés techniques à remembrer ces zones d'open field, donc du bassin parisien où il n'y a pas de haies.
Et moins de relief.
Et moins de relief, en plus. Et comme je disais, des terres assez homogènes, etc. Et c'est seulement à partir des années 60, finalement, que le remembrement va vraiment être appliqué de façon massive dans les régions de bocage comme la Bretagne. Et on a un géographe breton, Pierre Flatres, qui a proposé une chronologie du remembrement en Bretagne, par exemple, et qui parle de la période 60-75 comme la période de la table rase. C'est-à-dire que c'est la période où il y a le plus d'opérations de remembrement et où l'aménagement est le plus radical, où on va, où on détruit énormément de haies et de talus, où on va jusqu'à rectifier les cours d'eau, comme je le disais tout à l'heure, pour les rendre droits et avoir des parcelles bien droites. Et après 75, on a une sorte d'écologisation, de verdissement relatif du remembrement, où on commence à imposer des études d'impact. Et dans les commissions, il y aura dès lors une personne qualifiée pour la protection de la nature qui y siégera. Mais ça n'empêche pas que dans les années 80, il y aura encore des opérations très destructrices.
Ah bah oui, arracher les haies, rectifier les cours d'eau et pourquoi pas araser les collines.
Vous êtes jaune et desséchée, pourquoi madame la colline ?
Vous êtes jaune et desséchée, pourquoi madame la colline ?
Mes racines on a arraché, je n'ai plus d'eau dans la poitrine.
Mes racines on a arraché, je n'ai plus d'eau dans la poitrine. Et l'on s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit dans les prairies, l'herbe était si belle. Et l'on s'enfuit, 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 chantant taper le saut sur le fond du puits.
Dans la chevelure de mes haies qui poussait sur ma tête ronde.
Dans la chevelure de mes haies qui poussait sur ma tête ronde.
Le froid et le vent se brisaient, j'avais chaud avant qu'on me tonde.
Le froid et le vent se brisaient, j'avais chaud avant qu'on me tonde. Et l'on s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit dans les prairies, l'herbe était si belle. Et l'on s'enfuit, 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 chantant taper le saut sur le fond du puits.
Dans les dessous de mes fossés, l'ombre était douce et accueillante.
Dans les dessous de mes fossés, l'ombre était douce et accueillante.
Les animaux, pour se soigner, y trouvaient des herbes et des plantes.
Les animaux, pour se soigner, y trouvaient des herbes et des plantes. Et l'on s'enfuit, 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 dans les prairies, l'herbe était si belle. Et l'on s'enfuit, 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 j'entends taper le saut sur le fond du puits.
Ingénieur du remembrement, dis-nous le montant de ta prime.
Ingénieur du remembrement, dis-nous le montant de ta prime.
Ma prime, c'est 4% sur les talus que je supprime.
Ma prime, c'est 4% sur les talus que je supprime. Et l'on s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit dans les prairies, l'herbe était si belle. Et l'on s'enfuit, 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 j'entends taper le saut sur le fond du puits.
Sur l'abattage, 4% par talus, ça fait pas beaucoup.
Sur l'abattage, 4% par talus, ça fait pas beaucoup.
Pour que ça soit intéressant, il faut en détruire beaucoup.
Pour que ça soit intéressant, il faut en détruire beaucoup. Et l'eau s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit. Dans les prairies, l'herbe était si belle. Et l'eau s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit. J'entends taper le saut sur le fond du puits.
Mais pourquoi tant d'acharnement à vouloir que tout on arrache?
Mais pourquoi tant d'acharnement à vouloir que tout on arrache?
Est-ce que c'est pour le rendement ou pour que personne ne s'y cache?
Est-ce que c'est pour le rendement ou pour que personne ne s'y cache? Et l'on s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit. Dans les prairies, la bête est si belle. Et l'on s'enfuit, s'enfuit, s'enfuit. J'entends taper le saut sur le fond du puits.
Ce qu'on décide, ça là-haut, voilà ce qu'on a à leur dire.
Ce qu'on décide, ça là-haut, voilà ce qu'on a à leur dire.
Si c'est exprès, c'est des salauds, si ça fait pas, c'est encore pire.
Si c'est exprès, c'est des salauds, si ça fait pas, c'est encore pire. Et l'eau s'enfuit, 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 dans les prairies, l'air était si belle. Et l'eau s'enfuit, 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 j'entends taper le saut sur le fond du puits.
Gilles Servat dans Le cours de l'histoire, Madame la Colline, Le cours de l'histoire, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui la technique Noé Chabanne et aujourd'hui dans Le cours de l'histoire, une politique aux tailles-haies et aux bulldozers. Bien sûr, c'est le remembrement. Inès Leroux, Léandre Mandard, on va essayer de faire un jeu. Qui me défend le remembrement? Quels sont les arguments portés par ceux qui disent « Ah voilà, il faut remembrer Léandre Mandard ». Qu'est-ce qu'ils entendent, ces paysans, ces paysannes?
Ben, c'est déjà un grand discours de promotion du progrès, déjà, hein, avec un grand P, parce qu'on ne peut pas, dans les Trente Glorieuses rugissantes, être contre le progrès. Hein. Et le remembrement, donc, c'est déjà présenté comme une amélioration des conditions de travail, avec moins de temps passé sur les routes, avec des champs plus faciles à travailler. Et donc une intensification plus facile de l'agriculture, et donc pour avoir tirer davantage de revenus, c'est ça, comme ça que c'est présenté en tout cas, et c'est aussi des routes et des chemins, parce que l'état du réseau de chemins d'exploitation et de routes communales est assez critique, hein, au milieu du XXe siècle, et c'est une grande revendication des gens de la réfection de ce réseau. Et le remembrement, pour un maire, ça permet de refaire entièrement ce réseau de chemins et de routes à très peu de frais, puisque les opérations sont ultra subventionnées par le remembrement, alors que si on fait ça hors remembrement, ça coûte très très cher pour les petites finances communales. Et c'est donc un argument qu'a beaucoup joué, hein, qu'a amené beaucoup de maires à se résoudre à faire un remembrement, malgré les risques que ça présentait en termes de conflits locaux.
Alors, Inès Leroux, les conflits locaux, ou en tout cas les réponses de contestation, de critique apportées à cette politique?
Les réponses locales des habitants. Enfin, ouais. Alors oui, tout à l'heure, je parlais du clivage important qui est né dans les villages entre les personnes qui s'estimaient lésées et celles qui auraient profité du remembrement. Et puis, il va y avoir aussi toutes ces réclamations, ces recours en justice, et il va y avoir des actions collectives, donc des pétitions qui souvent ne seront pas prises en compte finalement par les municipalités ou par l'administration, des manifestations, et des manifestations qui vont passer à l'action directe, arrachage de bornes de remembrement, destruction des plans de remembrement, agression des géomètres, des ingénieurs du génie rural qui viennent sur place. Et puis, il va y avoir aussi énormément de violence entre les habitants. Des armes vont être sorties, il va y avoir des bagarres, des coups de fusil, des tentatives de suicide chez certains agriculteurs. Et tout ça va générer en fait un encadrement policier des opérations de remembrement pour protéger les bulldozers, parce qu'on va aussi... Enfin, il va y avoir aussi, je ne l'ai pas dit, des plastiquages de bulldozers, notamment dans les années 70 par le Front de Libération de la Bretagne.
Dans cette histoire-là, Je joue l'avocat pas du côté remembrement. Non mais pourquoi ils sont pas contents? Non mais ils vont avoir des plus grandes parcelles et on a juste échangé deux parcelles. C'est quoi? Alors on l'a bien compris, ils étaient attachés à la parcelle du grand-père. Mais enfin bon, ça suffit pour jouer autant de contestations? Ou, et là, la réponse est plus honnête, ou ils savent très bien les limites de cette politique-là. Ils l'ont déjà compris avant même qu'elle soit appliquée.
Oui, c'est intéressant parce que dans les archives de l'ORTF, on en met certaines dans la BD, en fait, on voit que même dans le cadre d'une propagande avec des journalistes qui viennent montrer à quel point le remembrement et tout ce qui entoure le remembrement, par exemple les lois d'orientation agricole de 1960-1962, comme l'IVD, l'indemnité viagère de départ, qui est présentée vraiment comme une loi sociale humanitaire pour permettre aux agriculteurs de prendre une meilleure retraite, etc. On voit bien que les gens sur place sentent le vent tourner et ils disent eux-mêmes, oui, ils nous disent que c'est pour qu'on ait une meilleure retraite, mais en fait, c'est pour nous faire quitter la terre. Et en effet, cette loi, elle est assez sidérante parce qu'elle dit qu'une personne qui cédera sa ferme à son enfant aura deux fois moins de retraite qu'une personne qui acceptera de céder sa ferme à l'agrandissement d'une autre ferme, permettant ainsi le remembrement d'une autre ferme. Et donc, il y a vraiment, en fait, il y a le discours officiel, qui est un discours social d'amélioration et de progrès. Il y a des grandes affiches hein, dans les villages. On en a récupéré certaines qui disent « Paysans, cessez cela !» Donc, on voit un cheval, un bœuf. « Arrêtez cela, prenez un tracteur, etc. » Enfin, et on voit, en fait... ce qui se passe de manière plus informelle, qui avait été très peu documentée jusque-là d'ailleurs. Il a fallu vraiment faire une histoire par la base en allant interviewer des petits paysans chez eux, etc. On a fait beaucoup de collectage avec Léandre. Et en fait, on voit que ce qui se passe, c'est vraiment une rupture anthropologique, le changement un changement de monde très radical, une paysannerie qui s'auto-organisait, en fait, qui était loin des pouvoirs administratifs et financiers, qui va complètement commencer à être administrée. Et en fait, voilà des modes de vie qui vont radicalement changer.
Oui, c'est une histoire foncière, mais c'est aussi une histoire profondément sociale. Et on le perçoit bien hein, quand on lit Champ de bataille, ces petits témoignages, ces paysans qui disent oh, enfin, moi, avec deux, trois vaches, j'arrivais à faire vivre ma famille, hein, ça allait très bien. Et donc là, maintenant, on lui demande d'avoir des grands champs et un gros troupeau.
En fait, c'est ça. Et au fond, ce qui se passe, c'est que on parlait du plan Marshall, de la reconstruction de la France, qui devait aussi atteindre son autosuffisance alimentaire après-guerre, etc. Mais à partir des années 50, on entre déjà dans des crises de surproduction agricole. Et pourtant, c'est en 1959 que le général de Gaulle demande à des économistes un rapport pour identifier les obstacles à l'expansion industrielle de la France. Et les obstacles identifiés par ces économistes, c'est le rapport Ruet-Farman, c'est l'agriculture, c'est la paysannerie. C'est cet endroit-là qui doit servir de levier au développement de l'industrie française. Et donc ça, les populations sur place sentent en fait qu'elles sont quand même instrumentalisées au service d'autre chose. Et les quatre leviers identifiés pour développer l'industrie française, ça va être que la paysannerie cesse de produire des produits finis comme le beurre, mais qu'elle produise de la matière brute, du lait, des œufs, des céréales, des légumes, pour alimenter l'industrie, l'agriculture qu'elle achète aussi des produits industriels, des semences, des pesticides, des tracteurs, qu'elle produise à plus bas coût pour libérer une partie du budget mensuel des ménages pour qu'ils achètent des produits facturés, et surtout que la population paysanne soit largement diminuée. On va perdre 90% des agriculteurs au cours de la deuxième moitié du XXe siècle pour que l'industrie ait de la main-d'œuvre sur les chaînes de ses usines.
Avec ici un écart très fort, écart social, évidemment, on le sent entre les autorités, qu'elles soient administratives ou municipales, et puis les gens, écart très fort de conception, en fait, tout simplement des modes de vie. Et on voit bien qu'il y a des politiques, souvent imaginées à Paris, qui vont s'appliquer sur des territoires très peu connus des bureaux parisiens. C'est ça ce que ressentent les gens. On nous impose des choses, mais sans connaître la réalité du terrain.
Il y a effectivement ce très fort sentiment d'imposition de l'extérieur et d'injustice qui est ressentie par toute une frange sociale de la paysannerie qui n'a pas forcément le même intérêt au remembrement, sachant qu'en plus, les paysans et propriétaires doivent quand même payer aussi pour le remembrement, même si c'est ultra subventionné, mais il y a quand même un reste à payer.
Ouais, c'est pas si facile que ça quand même cette histoire-là. Et puis ça leur fait du travail aussi parce que c'est pas mal d'accoler deux parcelles qui sont séparées jusqu'alors par une haie. Mais enfin, faut abattre le talus, faut abattre. Enfin, c'est beaucoup de travail. Et puis on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes sols juste à côté. Donc ça pose un problème. C'est pas si simple que ça par rapport au plan qui est proposé avec la nouvelle répartition des parcelles.
Oui, tout à fait. Et il y a beaucoup de types d'échanges qui étaient vraiment très injustes. On a évoqué les pommiers tout à l'heure, mais on pouvait très bien se voir retirer un verger en plein rapport pour avoir une parcelle plus grande, mais où on trouve une lande ou de la terre caillouteuse et par conséquent ça compromet complètement la survie économique de plein de petites exploitations.
Il y a toujours un peu de méfiance hein, quand on interroge les gens.
Tout le monde connaît la haie et le bocage de nos régions et beaucoup de touristes même non avertis des problèmes agronomiques ont pu s'apercevoir que ces haies tendaient à disparaître. En effet, qu'il s'agisse du remembrement d'une commune, de l'utilisation d'un matériel plus conséquent, il fallait restructurer nos exploitations dans la région et, de ce fait, faire disparaître un grand nombre de talus boisés qui bordent habituellement ce champ clos si particulier à la région de l'Ouest. Il y a des conséquences très importantes de tous ordres, mais nous ne connaissons pas exactement la limite à laquelle nous devrons arrêter ces destructions. Et nous ne savons même pas si nous ne devrons pas remplacer certaines haies par des haies plus jeunes, nouvelles, mais mieux placées.
Quels seraient ces inconvénients?
Ces inconvénients sont d'abord d'ordre climatique. Il s'agit d'abord de l'eau, du régime des eaux qui est contrarié. Il s'agit de l'érosion par les vents, l'érosion du sol dont nous avons déjà constaté les effets. Il s'agit également, et d'une façon beaucoup plus générale, d'une rupture de l'équilibre biologique ancestral de nos régions.
Nous étions en 1964, Paul Matagrin, ça va pas, qui est agronome, donc spécialiste des grains, et qui réfléchit à cette histoire de haies. Parce que c'est vraiment ça hein, qui a marqué les esprits aussi, c'est de voir les haies arrachées. Un papier signé chez le notaire, un échange, tout ça, bon, ça laisse une trace, celle qu'on retrouve aux archives. Mais la haie arrachée au bulldozer, ça c'est quelque chose de fort. Et c'est ce que vous avez vu aussi, Inès Hérault, en allant voir les gens. Parce que cette mémoire-là est toujours, toujours présente.
C'était intéressant. Je me souviens d'Anne-Marie Fourier sur la commune de Trébrivent, qui est la fille de Raymond Fourier, un homme qui a organisé la lutte contre le remembrement sur cette commune des Côtes d'Armor. Et elle avait hérité de toutes les réclamations de son père, toutes les coupures de presse qu'il découpait, etc. Et elle nous emmenait sur place et elle disait, mais regardez, là, ce champ en pente, l'administration, le géomètre, avait décidé d'arracher un talus qui était perpendiculaire à la pente, qui empêchait, en temps de pluie, de labour, etc., que la terre ne dévale dans le ruisseau. Ce talus, il empêchait l'érosion. Et l'administration l'a fait araser. Et donc, ouais, sur place, les gens étaient sans cesse en train de nous montrer l'absurdité des décisions qui s'étaient faites sur des plans où il n'y avait même pas de courbe de niveau, donc pas de connaissance du relief. Et la différence avec la réalité, en fait, des besoins agricoles.
Et puis ces paysans sont aussi des acteurs de cette histoire-là, parce que les haies sont également arrachées par les paysans eux-mêmes. C'est une histoire beaucoup plus large que simplement dire on échange des parcelles. C'est cette pression aussi sur les paysans qui se voient désormais, pour tout simplement vivre ou survivre, obligés d'appliquer des politiques qu'on leur impose. Sinon, ça ne tient plus.
Bah oui, c'est vrai qu'on peut noter qu'il n'y a pas que le remembrement qui a joué dans la disparition du bocage, qu'il y a eu des destructions de haies avant et après le remembrement, et que de manière générale, il y avait un encouragement quand même de la puissance publique à détruire, à intensifier l'agriculture, à produire plus, et ça passe. Quand on a une ferme bocagère traditionnelle, eh bien, si on veut intensifier de cette manière, on n'a pas le choix que d'utiliser des grandes machines. On n'a pas le choix que de faire sauter ces haies.
Avec des haies qui disparaissent, avec des exploitations qui se transforment, de moins en moins de paysans. C'est un peu la politique, c'est de dire, si vous voulez gagner plus, il faut agrandir vos surfaces. Ignace Hérault, au moment où vous vous emparez de ces champs de bataille, et je reprends le titre de votre bande dessinée avec ces dessins de Pierre Van Hove, il y a toute une démarche à faire, il y a toute une réflexion et très pédagogique pour nous raconter ce qu'est cette histoire. Le remembrement, on arrive à le dater, on arrive à lui donner une fin. Est-ce que cette politique de remembrement, à un moment on se dit, on a été trop loin et on arrête.
La politique de remembrement, elle est toujours importante dans les années 80, si bien qu'à la fin des années 80, dans un village normand qui s'appelle Géfos, on voit apparaître un monument qui a été dressé par la municipalité à la suite du remembrement, un monument en hommage, un monument national à la nature et aux hommes victimes des remembrements.
C'est dans la Manche.
Ouais, c'est dans la Manche, en effet. Et en fait, elle va s'essouffler au cours des années 90, non seulement parce qu'une grande partie du territoire a été remembrée, mais aussi parce que les contestations vont avoir de plus en plus de poids. Et puis aussi parce que les crédits au remembrement, il va y avoir de moins en moins de crédits au remembrement, et ça dès le tournant des années 70 avec les chocs pétroliers.
Oui, la conscience écologique aussi fait que maintenant on lit cette politique d'une autre manière.
Oui, c'était important effectivement de noter cette explosion de la contestation en fait dans les années 70 après 68, en gros où on va commencer à voir pas que des paysans et des paysannes qui vont contester, mais aussi des militants écologistes, aussi autonomistes bretons en Bretagne, des militants gauchistes qui vont venir fournir les rangs de la contestation et on a des contestations extrêmement fortes et organisées. C'est le cas par exemple dans le Finistère avec l'association Terroir Breton créée en 69 par un grand monsieur de la culture bretonne, Loïs Repars, qui a contribué beaucoup à sauvegarder le fesnoz, le chant traditionnel breton. Mais cette association Terroir Breton avait des modes d'action très originaux. Ils ont fédéré tous les syndicats de contestation locaux contre le remembrement autoritaire, comme ils disaient, ils ont organisé des manifestations, de l'entraide juridique entre les gens, et aussi ils organisaient ce qu'ils appelaient des rallyes du terroir, avec une utilisation donc des médias, puisqu'ils remplissaient un bus de journalistes et d'élus, et ce bus faisait le tour du département pour voir les dégâts du remembrement et rencontrer les contestataires sur place. Et en fait, c'est des modes d'action qui rappellent parfois un petit peu ce que font les soulèvements de la terre aujourd'hui, avec une utilisation médiatique. Et du coup, ça a été très efficace, puisque dans cette décennie 70, le remembrement a été quasiment stoppé dans le département du Finistère. Il n'y a pas eu quasiment de nouvelles opérations lancées. Et tout ce bruit de la contestation a forcément conduit à un infléchissement de la politique de remembrement, à une baisse des crédits.
Et puis aujourd'hui, il y a toute cette réflexion sur la place des haies dans nos paysages, en tout cas dans les régions où il y avait déjà des haies. Mais il faut quand même rappeler qu'une haie arrachée, ça s'arrache en quelques heures avec un bulldozer. Une haie à construire, c'est des années. Mmh. Et surtout un savoir qui se perd. Et c'est ça aussi la démarche de réflexion autour de l'histoire du remembrement. C'est une mémoire paysanne, un savoir qui a été menacé, vraiment menacé, parce que c'est pas facile de faire une haie et de construire ce paysage-là. Et ce savoir-là, c'est aussi la fierté des gens que vous avez pu rencontrer.
Oui, c'est vrai que un des objectifs de cet album, c'était de redonner leur dignité à tous ces gens qui avaient été vraiment dénigrés, perçus comme arriérés, plouks. Et en effet, de montrer que toute une culture, vous dites, a été menacée, mais a été anéantie, en fait. Il y a très peu de personnes qui savent construire aujourd'hui un talus ou une haie en Bretagne. En effet, c'est beaucoup plus facile et rapide de détruire que de reconstruire, de reméandrer. Parce que maintenant, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faut reméandrer les rivières.
On remettre a... les méandres, reméandrer, je connaissais pas le mot, ouais. Je le prends. Reméandrer les rivières, ouais.
Qu'on a rectifié parce que ça crée des inondations importantes, en fait. Les méandres permettaient que l'eau soit absorbée dans des zones humides en hiver. Et en été, en période sèche, ces zones humides deviennent des prairies vertes. Et en hiver, que l'eau soit absorbée, ça permettait qu'il y ait moins d'eau en aval. Et aujourd'hui, cette rectification de rivière crée de la sécheresse en amont, des inondations en aval. Donc, plusieurs communautés de communes décident de reméandrer, mais c'est un travail coûteux, important. Mais, dans le même temps, on voit que en fait, ces reméandrages ont des effets, quand ils peuvent être effectués, ont des effets très rapides. La biodiversité revient très vite, quoi. Les poissons qui, en fait, perdent leur habitat quand les rivières coulent trop vite, quand les rivières sont trop droites, reviennent très vite, en quelques jours, dans ces rivières en méandre.
Et puis, il y a le regard de l'historien Léandre Mandard sur cette question-là. Vous réalisez votre thèse sur ces sujets-là. Longtemps, il y a eu cette vision des bocages comme de beaux jardins qui faisaient notre pays joli. Mais il faut rappeler aussi que tout cela, c'est la vie des gens, des hommes, des femmes qui vivaient pour ça. C'est-à-dire que quand on construit des haies, c'est pas juste pour faire joli. C'est aussi pour maintenir les sols, c'est pour vivre, pour se nourrir et nourrir les autres en ville particulièrement. Et ça aussi, c'est à rappeler. C'est pas juste joli un chemin creux.
Non, c'est vrai que ce paysage jardiné, il nécessite beaucoup de travail, beaucoup de main-d'œuvre, et il ne fait sens que dans une agriculture paysanne. Et en fait, et c'est aussi pour ça que ce paysage a largement disparu, puisqu'aujourd'hui, l'agriculture paysanne a été laminée, en fait. Donc,
et il fait sens avec des animaux en plein air, en fait, parce que tout ce paysage de bocage, c'est un abri du vent, des intempéries, du soleil pour les animaux. Et à partir du moment où ces régions de bocage ont enfermé leurs animaux dans des bâtiments, en effet, ils servaient beaucoup moins.
Ouais, on comprend aussi, mais c'est ça qui est toujours passionnant dès qu'on étudie un sujet, que tout se lie à tout et ça nécessite de développer les approches. C'est ce qu'on essaye de faire dans le cours de l'histoire avec ces thématiques développées en 4 épisodes pour mieux comprendre un phénomène. Et merci vivement à tous les deux d'être venus aujourd'hui pour nous expliquer cette histoire du remembrement. Inès Leroux, je rappelle, Champ de bataille, l'histoire enfouie du remembrement, bande dessinée. Et puis il va falloir, Léon, demander d'art, terminer la thèse, mais ça c'est pas un souci parce que vous avez un appel à lancer.
Oui, tout à fait. Alors s'il y a des personnes qui ont des archives, des documents qu'ils ont conservés sur le remembrement dans leur famille ou des témoignages aussi quels qu'ils soient à apporter sur toute cette histoire, eh bien ils peuvent m'écrire à une adresse mail. Donc c'est contact.remembrement@gmail.com.
Voilà, on va la mettre sur notre site internet. En tout cas, vous pouvez écrire à l'émission et je peux vous dire que déjà, avant même votre appel, que je reçois des témoignages de gens. Parce que, on l'a bien dit, c'est notre histoire à tous. Merci vivement à tous les deux.
Merci à vous.
Merci.
Quel poste peut bien m'inviter dans une villa de Saint-Tropez? Moi, la bravade, je la ferai aérement comme chaque année.
L'amour sera toujours dans nos prés, Oiseau, dans le cours de l'histoire sur France Culture. Une émission préparée par Jeanne Delecroix, Jeanne Copé, Raphaël Laloum, Maël Vincent, Randonnier, Tom Hundenstock et Maïwenn Guizhou. Le cours de l'histoire écouté à podcaster sur franceculture.fr et l'application Radio France.